Bonjour à tous et bienvenue à ce BAP, le Bureau des Agités du Phylactère, rencontre du 9e type. On accueille Ange, romancière et scénariste, qui va avoir un petit micro d'ici quelques temps, et Benoît Pierre, qui seront mes deux collaborateurs le temps de ce podcast. On a avec nous Mousse, chanteur de Massisteria, Bastien Vives, donc qui vient de sortir Elle chez Caster, nouvelle collection qui cherche à développer la bande dessinée qui a du son, à savoir un nouvel esprit de bande dessinée plus près de la réalité, plus rock'n'roll et plus près à manger des projets ambitieux. Bastien Vives qui est aussi schizophrène puisqu'il a aussi un autre nom, Bastien Chambax qui signe Pingu la racaille
chez Danger Public.
Viravong qui chez Caster aussi sort Chétan.
Ouais,
voilà, Caster. Première bande dessinée.
Ma première fois, ouais.
Biron, t'es dans le collectif Courtrage Mais.
Je suis artiste.
Artiste en gros et donc à profiter.
La musique, le dessin, comédie, ainsi de suite, je suis dans tout.
Donc à profiter de toutes les portes couvres Courtrage Mais.
Ouais.
On coupe un petit peu Courtrage Mais au milieu pour s'arrêter sur El Diablo qui est pas si éloigné que ça puisque El Diablo qui vient de signer avec Rick Sage. La rage de vaincre qui signe par ailleurs
la fameuse série Lascar. Oui, c'est bien moi.
Les Lascar
que... Non, Lascar, il n'y a pas de lait.
Lascar.
Je confirme.
La Gilly qui signe sur le dernier DV Courtrage Mais, 365 jours à Clichy-Montfermeil. Caméra à l'épaule et
voilà,
les événements.
C'est ça, acteur réalisateur. Et là le DVD disponible partout.
Toumani Sangaré.
Bonjour.
Bonjour. Courtrage Mais Africa aussi. C'est toi qui es un petit peu le terreau de ces jeunes pousses africaines.
Exactement.
Voilà, Courtrage Mais Paris aussi, bien sûr, puisque vous êtes tous issus du même collectif.
Ouais.
Voilà.
134 personnes,
134
partout dans le monde.
Et à côté de toi, Eric Salch, donc avec El Diablo pour La Rage de Vaincre qui sort chez Mawashi
Comics.
Vous êtes tous dans des domaines de l'image, de la musique, vous touchez à tout. Mousse, sur internet, t'es présent et de façon très professionnelle.
Ben oui, puis c'est un bon moyen d'être exposé, quoi, que ce soit internet ou d'autres supports, ce serait dommage de pas y être en tout cas, pour occuper tous les supports possibles pour véhiculer l'état d'esprit, la musique de Massisteria.
Ouais, l'état d'esprit qui est un état d'esprit qui se veut quand même revendiquant certaines valeurs, une certaine identité, une certaine liberté aussi.
Ouais, un rock conscient, on va dire.
Un rock conscient.
C'est une musique sociale, musique de la rue. Je viens d'un quartier sensible, voilà. Je me sentais pas de chanter des poèmes. Je parle de ce que je connais, de ce que je vis, et c'est l'actualité, le social et tout ce qui m'entoure.
Est-ce que, Mousse, vous utilisez beaucoup d'images dans vos représentations live ou dans les différents rendez-vous que vous avez ailleurs avec votre public?
Non. Notre image, elle est surtout sur les pochettes, sur les covers, et en live, il n'y a pas du tout de vidéo, hélas.
Hélas, il n'y a pas de vidéo.
Hélas, il n'y a pas de vidéo.
Peut-être qu'il n'y a pas les vidéastes autour de toi.
Ouais, c'est une organisation quand même, un coût qu'on ne peut pas se permettre. On n'est pas un groupe qui passera à la radio, on n'est pas un groupe qui passera à la télé, quoi que ce soit. On est vraiment autodidacte et on fait notre petit bonhomme de chemin, et ça, c'est vraiment des surcoûts. Hélas, ça, c'est vraiment des choses qu'on aimerait bien intégrer, peut-être à la rentrée, il y a des choses à faire.
Toujours dans un esprit un petit peu roots et alternatif, je me tourne du côté de Courtrage Mais. Mousse parlait de logistique.
Comme on est nombreux, on essaye de pas perdre de temps grâce à ça. S'il y a quelqu'un qui est occupé, ça s'enchaîne rapidement, quoi.
Ça s'enchaîne, ouais. J'ai lu Toumani, si à 3h du matin on a une idée, on prend une cam et on y va.
Exactement.
Exactement. C'est ce qui fait la force en fait de ce genre d'état d'esprit alternatif.
On le dit, tu vois, ça fait partie de notre charte de réalisation. C'est purement instinctif. On assume le fait qu'il n'y ait pas de scénario certaines fois parce que justement on travaille dans un autre style de cinéma, quoi, tout simplement.
Dans un autre style de cinéma. C'est pour le Mali par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue matériel.
Ouais, c'est parfaitement adapté justement aux
conditions,
aux conditions avec l'avènement de la vidéo numérique. En 3 ans, on est passé de 2 monteurs à une trentaine, quarantaine sur la ville de Bamako au Mali par exemple.
Là, vous pouvez préciser un petit peu, Biron, Ladji et Toumani, Courtrage Mais, ça a une dimension internationale en fait.
Ouais, en fait là maintenant Courtrage Mais, ça fait 10 ans qu'on existe. On a monté plusieurs filiales, Courtrage Mais Toko, ce qui vient de la banlieue, Courtrage Mais Africa avec Toumani Sangaré, il y a Courtrage Mais Asie qui se met en place, Courtrage Mais Bagdad. Donc vu qu'on est 134, on peut pas tous avoir les mêmes goûts artistiques, donc on essaie de monter un maximum de filières et pour que chacun puisse se retrouver dans son art, quoi.
Et toujours sur des idées fortes, parce que Courtrage Mais Bagdad, c'est Clichy-Montfermeil mais en plus gros.
Voilà, exactement. Courtrage Mais Bagdad, il y a eu un clip qui a été fait il y a quelques années de ça, et maintenant vu la situation là-bas, c'est un peu tendu. Donc là on se concentre sur la banlieue, Courtrage Mais Toukos, DVD qui vient de sortir avec 2 reportages de 26 minutes, on a pas mal de documentaires dedans. En fait, il y a 8 ans de travail sur la banlieue, de 99 du premier court-métrage de Kim Chapiron jusqu'au dernier documentaire qu'on vient de finir là. En fait, on essaie de tout gérer nous-mêmes, de la réalisation à la production, à la distribution, quoi.
El Diablo, en 95, tu signais dans pas mal de magazines dits alternatifs qui se montaient, qui se descendaient, puis un peu plus tard, ça a été Lascar.
Je me considère comme un artiste multimédia, ça veut dire je me préoccupe pas tellement de la forme, mais plutôt du fond. C'est-à-dire que je peux aussi bien faire de la BD, demain je te après un court-métrage. Si tu veux, l'idée, c'est que ce soit dans le graphisme, dans le cinéma, dans le dessin animé, l'idée, c'est surtout de faire passer des idées avant de faire de l'esthétisme. Avant Lascar, par exemple, on a monté le projet pendant 5 piges avant que Canal nous dise « Ok, vas-y, on le fait, quoi ». Donc déjà, on ramait. Et c'est vrai que le premier truc dans lequel je me suis retrouvé, c'était la BD, parce que finalement, la BD, c'est là où tu peux dire le plus de trucs sans être censuré.
C'est vrai que c'est impressionnant le manque de censure en BD, et c'est très très bien. Je veux dire, il y a une liberté totale qu'on n'a pas forcément dans le roman et qu'on n'a plus du tout dans l'audiovisuel à part le moment où ça passe à la télé. Est-ce que vous avez vu un changement dans tous les artistes que vous connaissez? Maintenant qu'il est possible de faire du multimédia facilement, est-ce qu'il y a moins d'experts, il y a moins de monomaniaques?
Je pense qu'il y a les artistes qui sont artistes, et tout ce qui est de l'art, tout ce qui les passionne, les illumine, tout ce qui trouve étrange. Ils vont essayer de savoir quel est le fonctionnement, comment réaliser telle ou telle chose. C'est des gens que voilà, ils cherchent pas, ils sont déjà trouvés, ils savent ce qu'ils veulent. L'art, c'est la vie. Tant qu'on vit, bah, on est dans l'art et on exprime ce qu'on ressent, c'est tout.
Ce qu'on appelle l'alternativité, en fait, c'est juste l'envie, l'énergie, le besoin de créer et de créer quoi que ce soit. Non, mais, El Diablo.
Enfin, pour des gens qui ont une sensibilité artistique, c'est tentant d'aller. Maintenant, c'est tellement facile. On peut acheter une caméra, ça coûte 200€. On peut avoir une image qui tient la route. C'est vrai qu'avant, par exemple, on prenait un artiste, on le formait, il allait faire de la musique toute sa vie, ou il allait peindre, il faisait des beaux-arts, etc. Mais effectivement, nous, on est d'une génération où demain, par exemple, je sais pas, on m'apprend à faire 3 notes sur un. Encore une fois, hein, je vais pas faire de la musique, je crois pas. Mais je pourrais presque le faire parce qu'on a les outils pour le faire. Après, il faut le talent.
Tout le monde peut s'y essayer aujourd'hui. Alors, Bastien, toi, tu savais que tu voulais dessiner, raconter des histoires et raconter des histoires réelles, parce que à côté de toi, t'as Viravong aussi qui sort dans la même collection de toi, Chetan. Et en fait, vous collez vraiment à cette Nardine réalité. Il y a plein de réalisateurs, journalistes qui arrivent pas à coller à ça, qui passent qu'en surface ou c'est un fantasme de la réalité. Là, on a justement à travers des caricatures rigolotes, le Lascar ou la Rage de Vinc, ou à travers vos bouquins, une vraie vie des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Tu vis comme ça, toi?
Moi, je pourrais pas raconter quelque chose pour l'instant sur la guerre de 14 ou des choses comme ça, à part si je me documente énormément. T'sais. Pour l'instant, je raconte juste les choses qui me touchent brutalement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit, c'est la réalité, ou c'est une certaine réalité, c'est la réalité pour celui qui a écrit le bouquin.
C'est une sorte de thérapie, disait.
Je le sens sur certains bouquins. Il y a des choses qu'on a vécues et on va volontairement les raconter pour soit pour les affronter, soit pour passer à autre chose.
Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui s'est dit mousse quand t'as démarré Massisteria, c'était du hardcore, c'était violent, vous êtes pas dit putain on va se faire des couilles en or?
Ah, pas du tout, non. J'aurais pris un piano, j'aurais fait un duel avec Vincent Delerme, ça aurait été plus vite, je pense. Non, nous on fait du rock et je suis autour de béton, je vais pas faire un rock aseptisé, je vais faire un rock urbain, quoi.
Un rock
donc,
urbain.
Donc forcément à consonance hardcore, on va dire, pas dire du hard rock.
C'est notre ami Viravong qui dans son bouquin Chetan décrit le hard FM, le hard rock, les gothiques, l'espèce de.
Il y en a pour tout le monde, ouais.
Ah, il y en a pour tout le monde, ouais. il y a la New Wave, les années 90,
un état des lieux de la musique en France.
Non, ça peut être amusant, hein. Je veux dire, les petits gommeux du 16e qui jouent de la guitare électrique, mais ils savent pas pourquoi. Je trouve ça assez intéressant, ça doit arriver aussi dans le hip-hop.
C'est plus, j'avais envie de faire la BD que j'ai envie de lire, quoi. La BD qui me manquait, en fait, des trucs que je voyais, que je lisais pas ici, et vraiment des trucs que je vais chercher ailleurs, tu vois, ou dans les comics ou dans les mangas. Je retrouve plus des trucs qui me parlent, alors que c'est vrai que les BD que je vois en France, c'est pas ma cam.
C'est ce qu'on appelle l'école franco-belge.
Les meilleures bandes dessinées, elles sont pas françaises. Les meilleurs films, ils sont pas français. Les meilleurs dessins animés, ils sont pas français. C'est pas que les Français sont mauvais, c'est qu'il n'y a pas cette ouverture-là vers la diversité en France. Il faut que ça ressemble à quelque chose qui a déjà été fait, qui a fait la gloire de la France, pour que ça soit pris en considération aujourd'hui. Alors que nous, non. On a une autre vision de la chose, on est multiculturel. Voilà.
On est un petit peu dans le principe des zones autonomes temporaires où on fait de l'art pour l'art, on crée pour créer.
Moi, je dis pas que t'as tort, mais je dis pas que t'as raison non plus. C'est une super mauvaise représentation médiatique des nouveaux artistes, en tout cas. En France, il y a une espèce de tradition, un peu comme le cinéma, où pour que le cinéma soit bien, il faut que ce soit du grand cinéma. Tu vois, ambiance.
Même la musique. Hein.
Ouais, mais c'est des choses de vieux. On est encore gouverné par les baby boomers, ça va changer. Et nous, on est les générations qui suivent, quoi.
On est encore gouverné par les baby boomers. Voilà, merci. Ouais. Ben, c'est la phrase que j'attendais, je vous remercie.
Il n'y a pas beaucoup de prise de risque, en fait.
Eric Salch, la race de vaincre, toujours avec El Diablo. Oh, toi, t'es graphiste à l'origine, c'est-à-dire t'as presque un métier honorable.
Ouais. Tu peux dire pour qui tu bosses?
Bah, pour Gerbo, marque de fringues.
Ah, tu bosses pour une marque de fringues, en fait.
Ouais. Moi, au départ, c'est la BD, après, je fais du graphisme pour gagner ma vie. Parce que la BD, c'est pas surtout avec ce style de BD qu'on le fait pas pour gagner des thunes au départ. Donc,
Tu rencontres El Diablo et là, tout d'un coup, vous mettez à faire une BD ultra trash qui est, on va pas dire la première BD hip-hop, mais.
Si, on va le dire.
Tu te considères comme le premier à avoir fait de la BD hip-hop, donc c'est pas la première, en fait.
Non, moi, j'en ai
non,
fait.
Non, mais c'est la première publiée.
Ah, ouais, tu vois, Biro, il en a fait, lui. Alors, Eric, c'était logique pour toi de partir dans une aventure comme ça? Tu sentais un courant créatif? créatif.
Ouais, moi je m'en faisais déjà avant tout seul. Je faisais de la BD dans mon coin, tranquille, la BD hip-hop. Donc quand on s'est rencontrés, voilà, j'aime bien ce que tu fais, tac, hop, on fait la BD ensemble et puis voilà.
C'est paru où tes premières BD hip-hop? Tu les faisais
à la lueur de la bougie? D'ailleurs, ça serait pas publiable.
Aujourd'hui, avec le recul, tu
dis. Non, c'était en plus un truc sur une garde à vue en banlieue.
Ah ouais, bah c'est bien ça.
Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui, ça serait, c'était publié dans Street Life Story à l'époque. Et nous-mêmes, déjà, on s'est censuré sur cette BD parce que c'était trop hardcore. Quoi.
C'était trop hardcore. La G, quand tu tournes 365 jours à Montfermeil, tu te censures?
Pas du tout, en fait. Moi, j'ai filmé pendant un an et j'ai dans le reportage, dans le doc, c'est ce qu'on a vécu pendant un an. Il n'y a aucune censure, c'est vraiment du brut. Pendant 26 minutes, il se passe que des choses. Quoi. On s'est dit, on va faire le DVD, il va sortir, il passera pas à la télé, ça on le sait. On a proposé un envoyé spécial, il y a une partie qui a été diffusée, mais c'est plus le côté social. Et c'est pour ça qu'on a sorti le DVD avec un 26 minutes super hardcore qu'on n'a pas censuré.
Si, y a aussi des censures du quartier, quoi. On a décidé nous-mêmes de censurer.
Ouais, après, il y a quelques trucs. Vous êtes quand même soumis à ça.
Il y a quelques trucs qu'on a censurés qui n'avaient pas un rapport avec le sujet.
Aucun intérêt, quoi. Parce que c'est violent. Depuis le 5 septembre 2005, nous avons des frères encore incarcérés dont personne s'occupe. Tout ce qui est inconvénient, il y a personne qui s'en occupe. Il y a je sais pas combien de jeunes qui sont fait arrêter dans la France. Personne n'en parle.
Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même à Paris que sont venus les pas mal de gens qui ont fait des révolutions. On se disait qu'il y avait quand même une espèce de courant qui, depuis 500 ans, a créé des hommes et des idées libres. Et en fait, on voit bien que finalement, peut-être pas.
Comme toujours, ceux qui se battent pour ces libertés, après à un moment, ils disent « Oh, mais la liberté a un prix, il faut faire en sorte de conserver ces libertés pour lesquelles on s'est battu. » Et c'est ces mecs-là qui se mettent dans le camp des censeurs.
Ah, les censeurs, oui, oui. Ouais. Voilà. C'est essayer de calmer la liberté d'expression à tout prix. Alors, je vous évoque une petite histoire qui arrivait récemment. Sûrement que Mouz va pouvoir intervenir là-dessus. Les Ogres de Barbac qui, lors d'un concert à la veille de l'élection présidentielle, font un petit point en l'air en disant que demain, il faudrait faire quand même le bon choix, même si c'est pas forcément un choix très évident. Et ils ont reçu une lettre du maire de la ville en question qui leur a dit qu'un plateau, comment une scène, n'était pas un endroit où on s'exprimait comme ça, surtout à la veille d'une élection présidentielle. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Voilà, c'est ça que c'est que ce bordel. T'as un micro, il est ouvert, il y a des gens, c'est public, tu dis ce que tu veux, quoi. T'es pas autour des soviets dans les années 50. Non, mais je sais, parce que moi, dans le sud, à Toulon, pendant un concert, c'est pareil. C'était il y a quelques années, pendant quand Chirac, il avait repris les essais nucléaires et tout ça, vers 98, 99. Puis bon, voilà, j'avais mis une couche un peu sur lui, et le député maire de la ville est monté sur scène, et m'a carrément chargé dessus, et m'a poussé de la scène. Je suis tombé de la scène. J'avais dit ce que je voulais dire sur scène, j'avais le droit, et donc je me suis fait censurer. Jeter de la scène carrément, puis s'ensuit une bagarre avec ses gardes du corps et les gardes et la sécurité du festival, assez confus d'ailleurs. Voilà, il a quand même mangé 2-3 tartines, il a voulu porter plainte. Bon voilà, on peut pas dire ce qu'on veut en fait. Il y a des gens, des politiciens qui croient qu'on peut pas dire ce qu'on veut. Moi je dis ce que je veux, et puis voilà.
Beaucoup de gens de tous bords politiques ont peur du chaos, ils ont peur de la spontanéité, ils ont peur de l'impro. Et donc, c'est pas forcément parce que vous avez dit ce qui leur plaisait pas d'un point de vue politique, c'est parce que vous l'avez dit librement à n'importe quel moment dans leur avis à eux et pas dans un cadre politique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit ça dans tous les partis politiques. Ouais. Les gens ont peur du délire, en fait, du petit côté délirant que vous avez tous.
Bah ouais, et puis c'est pas parce que c'est une fête qu'on peut pas être sérieux à un petit moment, c'est juste une parenthèse, on dit quelque chose de fort, puis on repasse à la musique, ou on repasse au film, on repasse à autre chose, même dans les films, on met des. Même si ça reste du divertissement, à l'intérieur, il y a des vérités qui fâchent. Et heureusement d'ailleurs, sinon, ça serait insipide.
Les uns comme les autres, à travers un humour débridé régulièrement, vous tapez quand même fort, vous montrez une réalité. Vous pensez que les gens qui vous écoutent ou qui vous regardent sont pas des cons? Ce qui tranche quand même avec énormément de mass médias qui eux s'adressent aux gens comme à des crétins finis.
C'est pas parce que y a des flics gentils qu'on n'a pas le droit de dénoncer pour autant toutes les maltraitances policières. Et ça, y en a un paquet. Moi, c'est tout. Moi, je dénonce ça. Je vais pas parler des trucs qui marchent bien, quoi.
On sent bien qu'il y a une espèce de pression. Donc de ce genre d'événement isolé ou un passage télé qui peut pas se faire parce que c'est trop violent ou des courts métrages qui sont pas pris. C'est
la censure. Ouais.
La censure, mais sournoise, latente, ouais, qui vous bloque juste un petit peu au niveau des
chutes. Je prends un exemple par rapport à ce DVD. On a fait une première sortie sur internet et un mois après on a fait une sortie nationale et on s'est rendu compte que personne ne voulait parler du DVD, quoi. C'est la banlieue, c'est trop violent, c'est bon, on a eu la dose pendant un an et demi et au final on a dû se taper, on a eu des articles par rapport aux gens qu'on connaissait, mais la presse on n'a pas parlé, quoi.
Ça rejoint ce que disais tout à l'heure, c'est que les gens ont peur du chaos justement, ouais. Parce que c'est une vérité, quoi. C'est une vérité et c'est une vérité qui dérange vraiment, quoi. Ils préfèrent les choses plus souple, plus insipide.
Ouais, c'est comme
les films d'amour, les chansons d'amour.
Je vais faire un peu ma pub, mais j'ai sorti un bouquin au courant de septembre 2006 qui s'appelle Pourquoi la France brûle, la racaille parle. J'en ai entendu parler nulle part. C'est une vraie explication des problèmes sociaux entre les jeunes et l'État, la police et ainsi de suite. J'ai fait plein de passages radio, je suis parti voir les télés et ainsi de suite. J'ai envoyé plein de bouquins. Le bouquin, ils l'ont même pas montré, ils ont même pas survolé quoi. C'est-à-dire que quand on parle de vraies causes, tu viens pas dénoncer ce qu'ils veulent que tu dénonces, tu viens pas se faire leur jeu, bah ils trouvent le moyen de t'effacer.
En gros,
c'est contre les médias.
Si t'es pas dans le blockbuster et si t'es pas dans la culture unique, alors on va dire, t'es obligatoirement mis de côté. Alors les armes pour lutter,
l'argent,
c'est l'argent.
C'est même pas l'argent parce que nous le DVD, on n'a pas spécialement
l'argent. Là, je l'ai devenu
un petit peu, juste un petit peu. Alors, mais c'est vrai, tu vois, le DVD n'a pas coûté énormément d'argent. On a internet, on a fait un premier pressage, on a pressé 2000, tout a été vendu sur internet.
Je pensais plutôt à l'argent pour fonctionner, parce qu'en fait le premier court-métrage, mais il a été DVD d'or.
Ouais, DVD d'or, mais ouais, ça a pris peut-être sur 2 ans, mais oui, DVD d'or, on a vendu 10 000 DVD, là on est à 4000 avec celui-là.
Mais je précise, on a pu le faire grâce à beaucoup d'esclaves, hein, noirs et asiatiques.
Et chinois surtout.
Hein. Asiatiques, arabes, enfin bon, tous les gens.
Beaucoup d'économies.
Une économie parallèle. C'est vrai, vous fonctionnez comme ça, parce que El Diablo, on va parler dessous sans trop en parler, mais dans un premier temps.
J'ai pas d'argent, je vous dis, j'ai pas d'argent.
La première année, Lascar, il y a une saison sur Canal, c'est à mourir de rire, et super révélateur enfin d'une réalité, même si elle est caricaturée et que tous les Lascars sont pas comme aussi crétins que ça. Mais après, ça a pas duré. Qu'est-ce qui se passe après?
Ce qui s'est passé sur Lascar, ouais, alors il y a eu plusieurs problèmes, effectivement, problème d'oseille, parce que tout simplement pour faire un dessin animé ou un programme audiovisuel quel qu'il soit, il faut des financiers. On a mis du temps à en retrouver. C'est vrai que quand on a sorti Lascar, c'était un peu un astéroïde, quoi. C'est passé comme ça. Il y a des gens qui l'ont vu. Et finalement, ça a été repéré assez tardivement.
Mais sinon, ça s'est échangé sous le manteau par Internet.
Voilà, essentiellement Internet beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui se l'envoient par téléphone portable aussi, notamment. C'est pas tellement une histoire d'argent. C'est une histoire que pour faire parler de soi, il faut que ce soit consensuel. Lascar, ça fait partie des trucs qui le sont pas tout à fait. Donc c'est toujours dur. Je fais pas que Lascar. Je fais aussi des courts métrages. Je sais que j'ai beaucoup de mes courts métrages qui sont matés. Je les ai foutus en ligne sur mon site et sur un MySpace. Les gens qui viennent les mater.
Ça fait partie des méthodes alternatives aujourd'hui.
Ouais, on
n'a
pas besoin forcément d'oseille pour se faire connaître, mais ça aide quand tu sais t'en servir.
Vous avez tous un potentiel professionnel qui va au-delà de beaucoup de sites internet qui sont merdiques, de beaucoup de télé qui sont merdiques. L'alternativité aujourd'hui, c'est la seule façon de faire de l'art.
Ouais, mais internet, c'est un peu comme si on te disait tu peux faire ton émission télé gratuite. Tu peux faire tout ce que tu fais gratuitement. Tu fais ta maquette gratuitement, tu présentes ta maquette gratuitement, tu présentes tout ce que tu fais, tu le présentes gratuitement. T'as pas besoin d'aller toquer aux portes, t'as pas besoin d'aller te mettre une cravate, parler gentiment.
Internet, le gros avantage, c'est que ça permet juste que les choses existent, enfin d'une certaine manière. Donc si elles existent, après n'importe qui peut le voir. Une chose est faite pour être montrée, diffusée, et voilà, si elle est pas montrée, elle n'existe pas.
C'est une vitrine quoi, Internet. Ça serait dommage de passer à côté, surtout que c'est encore un des seuls supports médias qui n'a pas encore trop de police ou de censure. Mais voilà, ça ne saurait tarder, je pense.
L'avenir, ça sera d'avoir des petites clés USB dans sa poche ou de les planquer dans ses chaussettes comme le shit quoi.
Ouais, ou faire carrément des réseaux parallèles via des hackers de fous qui arrivent à te créer. Mais ça va être possible aussi quoi.
Mais c'est 1984, c'est horrible. C'est sous l'œil de Big Brother, on va dire tiens, j'ai le dernier court-métrage, mais tiens, j'ai le dernier Le Diable.
Les aficionados d'internet, après eux, c'est des rabatteurs, comme tu disais. Après, ils disent regarde, j'ai découvert ça, et puis après, ça fait vraiment de bouche à oreille.
Court-métrage, mais au début, c'était 5 cassettes dans un sac à dos, et puis on va les distribuer à droite à gauche quoi.
Ouais, les débuts court-métrage, mais c'était ça. On faisait cassette VHS, après CD-ROM un petit peu, puis
CD-ROM,
ouais. Voilà, ça tournait dans le télé du foyer du lycée, soirée pote, tiens j'ai un court-métrage, mais il y a 40 personnes dans la soirée qui voient le truc, et ça commençait comme ça quoi.
Pour ma part, il y a une frustration, tout ce qui est internet et tout ça, c'est une alternative à tout ce qu'on nous bassine à longueur de journée quoi. Il y a rien à la télé, il y a rien à la radio.
C'est vrai qu'aujourd'hui les radios, c'est sur internet.
Ouais, et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'alternative en fait, c'est la passion en fait qui guide tout ça. On n'attend pas d'être payé, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et quand tu parlais tout à l'heure de Paris, de la France, terreau de culture, de créativité, pourquoi ça s'est enlisé? Pourquoi on s'emmerde maintenant, tu vois?
Ah, pourquoi on se fait chier comme alors ça? Alors ça, je me demande.
Les nouvelles idées circulent pas assez à la télé ou à la radio. Moi, je vois la radio, c'est navrant.
Je pense que maintenant, sur les grosses radios, sur les grosses télés, ils s'en foutent. C'est que de la forme, c'est que de l'apparence. Il faut filer à bouffer aux bestiaux, il faut filer à bouffer aux moutons. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est insipide, c'est une espèce de d'OGM culturel. Tout le monde se ressemble, c'est du réchauffé. On va reprendre des vieux tubes. Bon, c'est voilà, c'est c'est une cuisine, voilà, insipide, c'est du McDo. La passion, c'est comme tu dis, à 3h du matin, t'as une bonne idée, bah, tu prends ta caméra, tu vas filmer un truc, tu vas réveiller tes potes, t'es pas fonctionnaire, t'as pas d'horaire, t'as qu'une passion qui t'anime. Et voilà, une flamme, ça s'entretient.
Ah, heureusement qu'il y a Internet. Il y a plein de gens qui fouillent, qui cherchent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de réveiller cette curiosité. C'est la curiosité, en fait, qui est à la base de la création. Et quand je dis qu'on s'emmerde, c'est que tout ce qu'on nous balance, c'est déjà entendu, c'est déjà vu. Ce qui est intéressant dans l'art, dans la création, c'est de prendre une claque, quoi. C'est de se réveiller, quoi. C'est tout le temps des nouvelles idées. C'est ça qui est intéressant.
Bah, si déjà ça s'emmerde en France, je pense parce que on fait moins appel ou on invite moins les emmerdeurs. Parce qu'il y a eu une époque où en France, il y avait beaucoup d'emmerdeurs.
Ouais, ouais.
Des gens comme Coluche et ainsi de suite, il n'y avait pas que lui.
On a des emmerdeurs réguliers, quoi, qui viennent sur des émissions, montrer leurs fesses et c'est tout.
Aujourd'hui, il y a moins de prise de risque. On invente quelques emmerdeurs.
C'est des bouffons. Ou alors on fait venir des emmerdeurs gentils, fort sympathiques, hein, tu vois, des Eric et Ramsey, machin, mais j'aime beaucoup, mais qui sont pas là pour bousculer.
On n'est pas là pour parler politique, société, humanité, on n'est pas là pour ça. Les médias imaginent qu'ils attendent ça. Aujourd'hui, Internet, justement, permet que tout le monde puisse voir ce que vous faites, c'est-à-dire vos parents et vos amis y compris. Comment est-ce que ta famille, Mousse, t'as vu débarquer sur du hardcore?
Ah ouais, ils sont venus me voir deux fois, mais ils viendront plus maintenant. Ils ont vu ce que je faisais. Ils sont même étonnés qu'il y ait des gens qui viennent me voir. Ils ont pas trop compris, mais ils disent, bah, si t'es heureux, c'est bien. Inch'Allah. Enfin, mon papa, il me dit ça, quoi.
Le fait que tu sois épanoui, leur allait bien.
Ah ouais, complètement.
Ça s'est géré.
Ah ouais, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. J'étais libre. J'avais les clés de la maison à 13 ans. Je rentrais, je sortais comme je voulais.
Nickel.
Donc voilà, je suis pas devenu un mauvais garçon.
Bastien, tu débarques tout juste. Pour le moment, c'est le côté un petit peu pop star, quoi.
Bah, il y a une semaine, mon père qui m'a dit, c'est bien qu'à ton âge, on est plus te donner cette chance de t'exprimer, que t'es su la saisir.
Viravon, tu débarques pour le moment, tes parents, tes potes, tout ça, ils ont regardé ce que t'avais fait.
En fait, cette BD, elle a 10 ans en vérité, comme ça fait 10 ans que je les saoule. Là, pour tout le monde, ils sont super contents. Ah, Vira, il l'a sorti, c'est cool. Il va nous lâcher un peu, il va enfin grandir.
Un petit clin d'œil sur le chétan, hein. J'ai l'impression que c'est quand même un terme qui vous anime un petit peu tous.
Bah, comme tu disais tout à l'heure, Nardine, quand on était au collège, on parlait des fois en rebeu, tu sais, les langages codés et tout, puis t'avais Nardine, chétan, c'est des mots qui reviennent.
C'est incroyable, hein, cette culture métissée qu'on a et qui est pas représentée. Ah, Biron, toi, tes parents,
tu sais, ça commence ça toujours comme d'habitude. Hein. Les écoles avant tout, tout ça c'est bien, mais on verra après. Après, une fois que les gens ils commencent à en parler, c'est ah oui, c'est bien. Et après un jour, c'est mais je l'ai toujours soutenu.
El Diablo, ouais.
Moi, mes parents savent très bien que je suis irrécupérable, donc voilà. Après, pour reste, non, mais ma maman est très fière de moi, mes enfants aussi. Non, moi, ce que je fais, c'est cohérent avec moi-même, donc les gens qui me connaissent, ça les choque pas.
La Gilly.
Bah, moi, mes parents, ça va, ils sont assez fiers, même si moi, je leur fais pas voir, en fait, toutes les productions, parce qu'il y a des trucs assez trash, assez gore, et vu que c'est une autre génération, une autre culture, voilà, filtrage, il y a pas mal de censure.
Tu les préserves un peu, quoi.
Ouais. Et non, sinon, ils sont fiers, même autour de nous, les gens, ils sont assez fiers. Ce qu'on fait, voilà.
Parti de rien, construire tout ça et continuer sur cette lancée, c'est
exactement,
fabuleux, quoi.
L'énergie courtragemée.
Grosse énergie aussi. Ton côté, tout Mani, est-ce que tu me racontais tout à l'heure, t'es parti 3 ans au Mali, 3-4
ans j'ai fait 3 ans et demi, ouais.
Puisque à Bamako, c'est la base de courtragemée africain.
Exactement. La famille là-bas, ils ont kiffé, étant donné que, tu vois, on a fait des clips là-bas, on a ramené de l'argent quand on a fait manger la famille, donc ils sont contents. Même au début, ils pensaient pas que j'ai gagné de l'argent là-bas, ils pensaient que c'était mes parents qui payaient, tu vois, mon séjour en Afrique, quoi.
On pourrait parler des heures, hein. Chers amis, bah merci beaucoup à tous.